francophone de la Voix de l'Amérique propose Votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir est une émission hebdomadaire sur les grandes questions de santé. Présentation, Khalil Gay.
C'est une icône au Sénégal dans la lutte contre le cancer et aussi une icône pour la prévention du cancer à travers certaines pratiques sociales comme la cigarette, le commerce de la cigarette, le tabac, les publicités sur le tabac, etc. Docteur Kassé, bonjour et merci d'être avec nous. Docteur, le Sénégal a inauguré récemment une usine de fabrication de tabac. Quelle est votre réaction et comment est-ce que vous jugez, vous analysez cette situation?
Beaucoup de tristesse, c'est vrai, mais également beaucoup de lucidité. Beaucoup de tristesse, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le tabac est responsable de décès, d'invalidité et de handicap associés à des maladies. Et que chaque année, c'est 7 millions d'âmes qui sont perdus du seul fait du tabagisme. C'est 600 000 personnes qui sont tuées par les fumeurs. 600 000 non-fumeurs.
La fumée du voisin.
La fumée du voisin. Malheureusement, ou je devrais dire heureusement pour les Occidentaux et malheureusement pour nous, les Occidentaux ont bien compris qu'il fallait prendre un changement de politique et un changement de comportement pour réduire le tabagisme en milieu occidental. Et toutes les compagnies de tabac se replient dans les pays à revenus intermédiaires ou à revenus faibles, dont l'Afrique. 83% du tabac fumé dans le monde est maintenant fumé par ces pays. Ceci représente des sommes incroyables, parce que le marché annuel du tabac, c'est 600 milliards de dollars, voire 700 milliards de dollars maintenant, en 2015, chaque année. Qui paye cet argent? C'est les fumeurs qui le payent. Et comme la plupart des fumeurs sont des fumeurs des pays pauvres, ce sont les fumeurs des pays pauvres qui paieront cet argent en enrichissant l'industrie du tabac. Mais l'industrie du tabac a compris que 90% de ceux qui fument ont commencé à l'âge du secondaire. Donc ce sont des jeunes et des enfants. Où sont les jeunes? Où sont les enfants? Dans les pays pauvres. Donc on va les chercher dans les pays pauvres. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un pays stable sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, dans lequel on peut s'installer et à partir duquel on peut inonder tous les pays de la sous-région au gré des accords de coopération monétaire dans le cadre de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Donc Dakar était l'endroit indiqué, l'Eldorado rêvé pour installer une industrie fortement robotisée et automatisée qui emploie peu ou pas de personnes et qui s'installe face à Pékin. Quand on sait ce qu'est Pékin, quand on sait ce qu'est Guédiouaï, on comprend parfaitement qu'il y a là un bassin, le recrutement de nouveaux fumeurs. C'est extraordinaire.
Les autorités au niveau le plus haut de l'État ont procéder à l'inauguration de cette usine. L'argument était, on crée des emplois. Est-ce que vous pouvez nous faire le rapport entre les emplois créés et le bilan mortel redoutable?
Le bilan mortel, je ne peux pas le faire, pour la simple raison que nous n'avons pas au Sénégal un système d'enregistrement des décès et des causes de décès. Donc, on ne peut pas le savoir. Par contre, nous savons parfaitement que l'État du Sénégal empoche de l'argent de l'industrie du tabac et paye les conséquences. Combien? le marché annuel du tabac s'élève à environ 105 milliards de francs CFA depuis 2004, et je crois que ces chiffres ont progressé. Et en son temps, l'industrie du tabac, au titre de taxes et droits divers, reversait à l'État du Sénégal 22 milliards. Cela a progressé depuis quelques années, je crois savoir que c'est monté jusqu'à 32 milliards, soit. Mais en 2012, un travail personnel que j'avais fait permettait d'évaluer les dépenses liées au tabagisme, les dépenses de l'État du Sénégal. Je ne parle pas des dépenses des particuliers. Ces dépenses étaient estimées à 51 milliards. Faites-le. Vous gagnez 22 milliards. Allez, 32 si on est gentil. Et vous en perdez au moins 51, vous, État du Sénégal. Comment pouvez-vous l'accepter? C'est pourquoi je salue quand même, pour le dire, le travail qui a pu être fait pour que le gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2012 accepte avec nous de nous accompagner pour aller vers une loi pour réglementer la production et l'usage.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cette propension vers le changement a été en quelque sorte concrétisée?
Faut dire les choses. La première chose qu'il faut dire, Macky Sall a émis vraiment un avis fort pour dire le tabac ou la santé, je choisis la santé. Faut dire que Mme Awa Marie Kolsek, quand elle est arrivée au pouvoir, m'a reçu personnellement en tant que président de la Ligue sénégalaise pour qu'ensemble, pendant 2h47, nous examinions ce qu'il fallait faire pour le tabac. Et Mme Sek, en son temps, est venue elle-même me remettre la médaille d'or de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le tabac en Afrique. Donc, je crois qu'il y avait là une volonté politique, et c'était important. Mais nous avions compris, nous, en tant que société civile, que ce n'était pas à nous de faire les lois, que ce n'était pas à nous de voter les lois. Donc, il fallait avoir cette volonté politique avec nous. Nous avions drafté, en 2008, déjà sous l'ancien régime, un projet de loi qui a dormi pendant longtemps dans des tiroirs ministériels. Il faut dire que c'est le gouvernement actuel qui a sorti ce projet de loi de ces tiroirs et qui nous a permis, nous, société civile, de reprendre le texte de loi et de l'amender et d'y introduire des points capitaux sur lesquels nous reviendrons très probablement un peu plus tard. Il faut dire également que notre plaidoyer ne s'était pas arrêté simplement au niveau du gouvernement. Notre plaidoyer est allé beaucoup plus loin au niveau des parlementaires. Vous le savez. Ce n'est pas un gouvernement ou la société civile qui vote les lois, c'est les parlementaires. Donc, nous avons, avec l'aide de campagne For Tobacco Free Kids de Washington, travaillé fortement sur la formation des députés. C'était si bien fait que, lors du vote de la loi, on était surpris. C'était les députés qui utilisaient les argumentaires pour démonter les arguments qu'avançait l'industrie du tabac. Et donc, c'était vraiment formidable. Et on a réussi à placer 5 points capitaux. Le premier point capital que nous avons pu introduire dans cette loi, c'était de dire le gouvernement du Sénégal s'interdit toute forme d'ingérence de l'industrie du tabac dans la définition de nos politiques de santé. Article 5.3 de la Convention cadre de lutte anti-tabac, c'était important. La deuxième chose, vous savez, Khalil, que tant que le paquet de cigarettes coûtera 200 francs, mes enfants pourront l'acheter. Mais quand il coûtera 2000 francs, l'argent de poche de mes enfants ne suffirait pas. Encore moins, les maigres sous, les pauvres, ne leur permettraient pas de s'acheter des cigarettes. Donc, nous avons introduit dans la loi un principe d'une taxation indexée sur le coût de la vie, respectant les plafonds communautaires, ce qui ne devait pas exister, mais en plus de tout ça, suivant le coût de la vie, pour augmenter chaque année les taxes sur le tabac. Parce que vous le savez, c'est l'une des mesures les plus efficaces, les plus prohibitives, qui permet non seulement d'augmenter les recettes fiscales, mais de diminuer les dépenses de santé. Donc cette deuxième disposition est dans le principe, dans le texte de loi. L'industrie du tabac, c'est que 90% de ceux qui fument commencent à fumer à l'âge du secondaire. C'est donc là où ils agissent, pour faire une publicité mensongère, une publicité pour attirer le maximum de jeunes et d'enfants dans le tabagisme. Il est formellement interdit depuis le 14 mars 2014 au Sénégal de faire toute forme de publicité directe ou indirecte, j'insiste sur les mots parce qu'ils ont leur importance, mais deuxièmement, toute forme de promotion et ou de parrainage. Quatrième point, il me paraît important de noter que quand on achète un paquet de médicaments, on vous dit sur le paquet de médicaments, ce médicament risque d'entraîner de la somnolence, ne pas utiliser le soir, ne pas boire de l'alcool pendant. Donc ces avertissements sanitaires sont des avertissements capitaux. Alors, vous voulez me dire que si on oblige l'industrie pharmaceutique à faire des avertissements sanitaires pareils, ceux qui vendent un produit qui entraîne la mort de la moitié de ses utilisateurs ne doivent pas leur dire que ce produit peut les tuer et ou les rendre impuissants. Et alors, ils mettaient sur le bord du paquet un petit caractère abus dangereux pour la santé. Ce n'est pas l'abus qui est dangereux. Même l'abus d'eau est dangereuse. C'est l'usage qui est dangereux. Ensuite, c'est écrit en quelle langue? C'est écrit en français. Combien de Sénégalais savent lire et écrire « abus dangereux pour votre santé » 37% des Sénégalais. Par contre, si vous mettiez sur les deux faces principales des avertissements sanitaires réels, fumer rend impuissant, avec des photos en couleur des dégâts que font le tabac et les produits du tabac sur la bouche des fumeurs, sur la sexualité, sur la reproduction, sur les maladies cardiaques, les cancers, etc. Si vous le mettez sur plus de 30% de la surface, ce serait formidable. Nous avons mis sur 70%. Au Sénégal, la loi sénégalaise dit que les avertissements sanitaires doivent être imprimés sur les deux faces principales des enveloppes du tabac et des produits du tabac, sur 70%, avec des images et du texte indélébile et en couleur, ce qui est formidable. Alors, comme vous le savez, nous avons au Sénégal un système judiciaire qui est fait de sorte que quand on sort une loi, il faudrait que derrière puisse sortir ce qu'on appelle des décrets d'application qui définissent les règles du jeu d'application et des arrêtés ministériels qui le permettent. Et donc, cela fait un an que ce n'était pas fait et nous nous y attelons avec l'aide du ministère de la Santé. Cinquième et dernier point, qui n'est pas le moindre. Un homme a le droit de fumer. Mais un homme n'a pas le droit de tuer un non-fumeur. 600 000 personnes meurent chaque année dans le monde du fait du tabagisme des autres. Dans la loi sénégalaise, il existe une disposition disant il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les lieux ouverts au public. Et il a été cité notamment X, Y ou Z endroits, incluant bien sûr les établissements scolaires, les établissements de santé et les services publics, les services de transport, etc. Malheureusement, le lobbying de l'industrie du tabac, je le crois, je le dis, a réussi à leur permettre que soient aménagés les espaces fumeurs dans certains lieux publics. Mais les conditions sont telles que il sera très difficile d'aménager ce type d'espace fumeur dans les aéroports, dans certains restaurants et dans certains hôtels. Alors, Khalil, ces cinq dispositions, qui sont des dispositions extrêmement importantes, vont faire l'objet, avec l'aide bien sûr du ministère de la Santé, parce que c'est vers ça que nous allons. Nous avons essayé de refaire la coalition qui avait été faite avec les parlementaires, la société civile et l'administration, pour essayer de faire appliquer dans les meilleures conditions possibles ces dispositions, bien sûr à Dakar, mais également dans les 14 régions du Sénégal. Il y a une disposition unique au monde qui a été introduite dans le texte de loi par les députés de l'Assemblée nationale. Il est devenu interdit de fumer dans toute toutes les cités religieuses du Sénégal. Si le ministère de l'Intérieur arrive à organiser l'application de cette disposition réglementaire, le Sénégal sera le seul pays au monde où il y aura des villes et des cités religieuses entièrement 100% non fumées. C'est important. Malheureusement, il faut dire les choses, depuis le vote de cette loi, il s'est écoulé un peu plus d'un an, il n'y a pas eu grand-chose de fait, mais il y a une volonté exprimée clairement par le ministre de la Santé de, accompagné de la société civile, accompagné des parlementaires, d'aller vers une implémentation. Et c'est pourquoi nous irons chercher des synergies à l'intérieur du Sénégal et à l'extérieur du Sénégal pour pouvoir le faire. Voilà la situation de la lutte contre le tabac résumée au Sénégal. Je serai satisfait le jour où j'aurai l'intégralité des décrets d'application et des arrêtés ministériels qui permettront d'appliquer la loi. Ce jour-là, je referai le tour de la tombe de tous ces saints hommes sénégalais qui, dès 1886, à une époque où on ne savait même pas quels étaient les méfaits du tabac, avaient commencé à interdire le tabagisme. Et je pense à Seydina Limaoulaye, Amarinda Tsek, Elhaj Malik, Abdullah Had, la famille Omarienne, parce que je sais que ce sont là des hommes qui ont contribué à interdire, en tout cas dans le cadre de leur autorité religieuse, l'usage du tabac.
Vous êtes sur Votre Santé, Votre Avenir. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission.
Pendant très longtemps, nous nous étions trompés. On s'était trompés parce qu'on croyait que la principale cause de mortalité, de décès, d'invalidité, c'était des maladies liées aux infections. Je me suis aperçu très tôt, il y a plus de 26 ans de cela, que les causes de décès les plus fréquentes n'étaient pas des maladies transmissibles, c'était des maladies non transmissibles. Mais quand je l'avais dit en son temps, je crois que j'avais reçu beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, on le sait, chaque année, 36 millions de personnes décèdent de maladies non transmissibles, parmi lesquelles des cancers. Ici, au Sénégal, dans un travail que j'y avais fait il y a bientôt 30 ans, j'avais montré que la première cause de décès dans les hôpitaux, c'était le cancer, après l'âge de 40 ans. La première cause de décès, c'était le cancer. Le plus grave, c'est que 75% de ces malades arrivaient à des stades où on ne pouvait plus rien faire. C'était trop tard. Ils n'avaient plus de moyens. Ils arrivaient dans un état de déchéance physique extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait s'asseoir et écouter et regarder autant de malheurs? Je suis un enseignant de faculté, je suis un épidémiologiste, j'ai compris que l'un des meilleurs moyens pour réduire la mortalité et la morbidité, c'est soit de prévenir le cancer, ou bien de le diagnostiquer suffisamment tôt pour pouvoir le traiter et lui donner des chances de guérison. Et c'est pourquoi je m'étais investi dans des associations de la société civile. J'ai un temps enlevé ma robe d'enseignant pour porter un chapeau de pèlerin. Et j'ai donc créé l'association qui s'appelait Prévenir. L'objectif de Prévenir, c'était de réduire la morbidité et la mortalité de ces risques sanitaires. Comment fallait-il le faire? Plusieurs façons. Premièrement, il fallait un changement de politique. C'est-à-dire, il fallait que les politiques puissent accepter le principe de dire qu'ils allaient lutter efficacement contre les facteurs de risque. L'un de ces facteurs de risque, c'est le tabac. 30% des cancers sont liés au tabac. Donc, lutter contre le tabac était lutter également contre le cancer. Mais également, il fallait introduire la notion de dépistage et de prévention dans les pratiques sanitaires dans le pays. Changement politique. Il fallait également instaurer un changement de comportement. Le comportement des Sénégalais qui consistait à attendre d'avoir des maladies incurables pour cheminer d'abord chez les traduits praticiens, se ruiner et arriver dans les hôpitaux, c'était devenu inacceptable pour moi. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? Dakar n'est pas la seule zone où vivent des Sénégalais. Je crois comprendre qu'une bonne partie des populations vivaient dans des zones surtout à ressources limitées. Et donc, rester à l'université et dire toujours « il n'y a qu'à Foucault », c'est trop facile. Il fallait proposer un modèle et il fallait éprouver ce modèle. Nous avons donc conceptualisé le modèle de « screen and treat », c'est-à-dire dépister et traiter immédiatement. Et donc, nous l'avons appliqué dans la stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus, c'est une infection par un papillomavirus ou des papillomavirus qui en est à la base. Cette infection survient très tôt et il lui faut 25 ans avant que cette infection ne se transforme en cancer. Donc, on avait le temps d'informer les populations, de leur proposer un modèle de dépistage, mais de ne pas les laisser après dépistage sur place, et de leur proposer un modèle de traitement immédiat du cancer. Et c'est pourquoi donc, très tôt, en 2006, l'association Prévenir s'est donnée comme objectif de faire évaluer, évoluer ce modèle de screen and treat, dépister et traiter immédiatement. Nous avons donc installé notre centre pilote à Yumbel que vous avez visité. Et depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. 14 000 femmes ont fréquenté cette structure ou ces structures. Nous ne sommes plus qu'à Yumbel, Khalil. Nous sommes allés à Tambacounda, ma ville natale. Nous sommes allés à Touba, où existe une concentration humaine extraordinaire. Nous sommes allés à Mbour, et nous y retournerons pour finaliser le travail que nous faisons. Nous sommes également allés dans une banlieue de Dakar, à Rebess, où il y a une population de pauvres et d'employés de maison qui viennent travailler tous les jours à Dakar et qui n'ont aucun moyen d'accéder à ce système de soins. Et donc, avec les religieuses du dispensaire Saint-Martin, nous avons installé un centre et nous allons en installer d'autres. Que faisons-nous sur le plan de la prise en charge? À chaque fois que nous voyons 100 femmes, il peut nous arriver de voir 2, 3, 4 cancéreuses. On les envoie directement à l'hôpital de Dantec. Mais ces 4 cancéreuses qui ne se savaient pas cancéreuses et qu'on rencontre à des stades curables, nous avons donc eu dans notre stratégie à découvrir des dizaines de femmes qui avaient des cancers cachés à des stades curables et qui ont bénéficié de traitements à l'hôpital de Dantec. Mais le plus intéressant, c'est un pourcentage très variable selon les régions de femmes qui ne savaient même pas qu'elles avaient des lésions précancéreuses qui auraient pu en 10 à 15 ans se transformer en cancer. Que fallait-il faire avec ces femmes? Les envoyer à Dakar? Et non, je ne pourrais jamais le faire. Et nous avons donc mis à disposition une stratégie de traitement par la cryothérapie qui congèle les lésions et qui les détruise et qui se pratique maintenant, non plus par des médecins ou des chirurgiens ou des oncologues, mais par des sages-femmes. Et donc, nous avons réussi à mettre en place un système de compétences transférées vers les sages-femmes, qui consistait donc à faire du screen and treat. Et maintenant, nous n'avons plus besoin, nous-mêmes, d'aller tous les week-ends à Yumbel. Non, les sages-femmes de Yumbel savent le faire. Et les sages-femmes de Yumbel forment d'autres sages-femmes. Mais l'itinérance a du bon. L'itinérance nous permet, en dehors de nos centres, d'aller un peu partout dans les régions du Sénégal porter la bonne parole, pour dire « Aujourd'hui, vous ne sentez rien. On en a examiné une centaine. voilà cette femme dont on a sauvé la vie. Dans 15 ans, elles auraient pu développer un cancer. On les a empêchées de faire le cancer. Il y a une chose importante que je dis toujours aux membres de notre association. La société civile n'a pas vocation à venir se substituer à l'autorité administrative. Il est du rôle du gouvernement et de la gouvernance sanitaire de s'occuper de ces questions de santé. La société civile ne saurait venir en concurrence également avec les structures de la gouvernance sanitaire. La société civile peut porter le plaidoyer, la sensibilisation, créer un modèle qu'il mettrait à la disposition de la gouvernance sanitaire pour un passage à l'échelle. Il y aura une thèse soutenue par un garçon qui s'appelle Eli Aouji, et cette thèse, nous la mettrons à la disposition de l'autorité administrative pour dire inspirez-vous du modèle de screen and treat pour passer à l'échelle. Parce que je demeure convaincu que ce que nous avons fait au niveau de la situation, si nous pouvions le faire dans 75 districts du Sénégal, donnez-moi 10 ans pour que la mortalité par cancer du col de l'utérus soit réduite de façon très significative. Nous ne sommes pas les meilleurs relais. Le meilleur relais, c'est cette caméra-là. C'est ce micro que je porte. C'est les écrits dans des journaux. C'est les médias sociaux. Mais c'est également des personnes et des femmes qu'on appelle les relais et les badjanougor que nous utilisons pour aller dans les communautés, le plus loin dans l'échelle sociale, pour porter la bonne parole. Et nous travaillons avec une association de journalistes en santé qui fait partie des associations membres de ce collectif dans lequel nous travaillons, qu'on appelle la Ligue sénégalaise contre le tabac, dont je suis également le président. Et donc cela participe activement à ce que nous faisons. Mais je pense, et vous le savez, que tant que l'autorité de la gouvernance sanitaire ne se saisira pas de ce problème en se l'appropriant pour passer à l'échelle, je n'ai pas la conviction que notre travail aura la portée que nous lui souhaitons.
Vous êtes bien parti et bien placé pour ces moyens. Docteur Kassé, merci.
Merci,
Khaled. Abdelaziz Kassé. J'étais donc avec Abdelaziz Kassé pour tirer de lui ce qui fait son quotidien vital, ce qui fait ce qu'il sort après qu'il mobilise les ressources les plus vives de son être pour le Sénégalais. Merci, Docteur Kassé.
Merci, Khaled.
Merci beaucoup.
Y el que lo prueba se come todo.